Alors bonjour à tous, désolé d'être arrivé un petit peu en retard, c'est les aléas de l'organisation. Puis en plus j'étais sur une table ronde juste avant, donc mille excuses pour mon retard. Monsieur le professeur Mordon, Serge Mordon, un grand merci à lui d'être parmi nous aujourd'hui aux Utopiales. Donc le professeur Mordon qui est à mes côtés, qui est directeur de recherche donc à l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, c'est-à-dire l'INSERM. L'INSERM qui, je le rappelle, est partenaire des Utopiales depuis maintenant de nombreuses années et qui chaque année nous apporte une exposition avec justement un travail d'ouverture de la science et de la recherche scientifique au grand public, en direction du public, notamment des Utopiales. Cette année, avec une très belle exposition qui est surtout pour les 13-18 ans, pour les plus jeunes, qui s'intitule « Que la lumière soigne » et qui se trouve à l'entrée de la grande halle de la Cité des Congrès, sur votre gauche, en face des animaux du futur de Boulet et Steyer. Et donc cette exposition qui interroge justement les possibilités à la fois présentes et futures, la prospective aussi, de la recherche scientifique vue par les yeux d'un adolescent. Très belle exposition, très ludique et en même temps tout à fait accessible à tous. Et souvent, bien souvent, on reproche à la recherche scientifique une certaine forme d'hermétisme, une certaine forme de langage ou de jargon qui parfois ne permet pas toujours d'accéder à la quintessence même de la recherche. Et nous en discutions tout à l'heure en préparant cette rencontre avec le professeur Mordon. Justement, il y a la recherche d'un côté, il y a les patients de l'autre. Les patients sont le public aussi. Et donc la communicabilité, la communication de la recherche se fait aussi par ce genre d'exposition que l'INSERM réalise très bien. Alors, concernant donc mon invité, le professeur Mordon, depuis 1981, donc il travaille depuis 1981 sur la modélisation, le développement des nouvelles applications médicales, des lasers notamment. Alors évidemment, en science-fiction, vous êtes le public des Utopiales, on sait bien que le laser est souvent associé dans l'imaginaire uniquement, à la science-fiction. Alors le laser, c'est vraiment évidemment, tout le monde pense au sabre laser de Star Wars, tout le monde pense à la guerre des étoiles, tout le monde pense au laser qui détruit, qui découpe, qui dissèque. Et puis j'ai envie quand même de vous montrer une petite image, parce qu'on va rapidement aller bien au-delà de ça, mais je voudrais vous montrer une petite image qui est celle d'un film des années 60, inspiré d'un roman de Isaac Asimov, l'un des grands auteurs de science-fiction américains. Je ne sais pas si... Est-ce qu'on arrive à le passer ? Voilà, Le Voyage Fantastique, peut-être qu'on est un petit peu, voilà, on va le zoomer. Donc voilà, un film de Richard Fleischer qui raconte, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent, ce roman d'abord de Isaac Asimov et ce film donc américain, le Fantastic Voyage, Voyage Fantastique, qui raconte une expédition à l'intérieur du corps humain, un peu les prédécesseurs en quelque sorte de l'endoscopie lumineuse dont on parlera aussi, ces prédécesseurs donc qui vont aller à l'intérieur d'un corps humain dans un sous-marin. Alors clin d'œil à Jules Verne évidemment, un clin d'œil à 20 000 lieues sous les mers bien sûr, il y a tout à fait un parallèle tout à fait délibéré hein, de la part de Isaac Asimov et de la part du réalisateur du film. Ces scientifiques, donc cette équipe de scientifiques qui entre à l'intérieur du corps du président des États-Unis pour lui sauver la vie en s'attaquant à un caillot qui se trouve dans son cerveau et dans un des capillaires autour de son cerveau et qui va pouvoir permettre de prolonger son existence. Et donc ce sous-marin, il y a tout un récit de sous-marin miniaturisé et l'arme essentielle ou l'outil essentiel, c'est la lumière. Puisque c'est bien ce laser chirurgical, infinitésimal laser chirurgical, qui va sauver la vie d'un homme. C'est la lumière qui sauve, c'est la lumière qui soigne. Et ça, c'est un petit peu le symbole de la lumière en science-fiction. Alors peut-être pour commencer par ça, puisqu'après on va monter au fur et à mesure en science, ce clin d'œil au Voyage Fantastique de Isaac Asimov. Je sais que le professeur Mordon n'est pas spécialement lecteur de science-fiction et je le lui pardonne tout à fait naturellement. Est-ce que ce Voyage Fantastique, est-ce que vous aviez vu le film à l'époque ? Est-ce que cette utilisation de la lumière, du laser qui soigne de l'intérieur, est-ce que ça vous avait peut-être parlé ou pas du tout ?
Bon, tout d'abord, bonjour à tous et merci à nouveau de m'avoir invité. Oui, je me rappelle avoir vu ce film. Il est passé il y a très longtemps. Est-ce que ça m'avait inspiré ? Écoutez, peut-être inconsciemment. Voilà. Je suis venu au laser, en fait, un petit peu... J'ai toujours été très attiré par la lumière ou par l'image. Je suis venu au laser un petit peu par hasard, mais voilà. Donc, mais c'est vrai que... En plus, on en parlait tout à l'heure, aujourd'hui, vu l'évolution des lasers, la miniaturisation des lasers, ça, il y a eu des progrès considérables. Et moi, j'ai pu véritablement voir, en 35 ans maintenant, finalement, entre les tout premiers lasers médicaux et... Bon, je travaille au CHRU de Lille. Le CHRU de Lille a été un des premiers centres en Europe à utiliser le laser. Donc, il y a 35 ans, c'était des machines qui étaient très importantes. Enfin, à nouveau, de 300 kilos. Enfin, on plaisante souvent de ça, mais 380 volts, 52 ampères ont chauffé la moitié de l'hôpital. Et maintenant, grâce au progrès de la technologie, c'est-à-dire la technologie aujourd'hui qui sert à concevoir nos lasers, c'est la technologie des semi-conducteurs. C'est exactement la même technologie que celle qui est utilisée dans ce micro-ordinateur ou dans les téléphones portables. Et donc, la taille est devenue effectivement des tailles très, très faibles. Et aujourd'hui, pour avoir les mêmes puissances que mon laser de 300 kg, où il fallait beaucoup d'électricité, je peux faire marcher ça avec une pile bâton et mon laser fait 3 cm de long et 1 cm de diamètre. Et on parlait un petit peu des évolutions. Récemment, une équipe de chercheurs qui est arrivée à faire créer un laser avec une cellule. Donc, si vous voulez, donc, c'est la cellule qui est le milieu laser entre deux miroirs. Donc, voilà un petit peu. Donc, ça peut rejoindre effectivement ce fameux voyage fantastique.
Oui, en tout cas, oui, c'est ça. On est dans l'idée peut-être d'une lointaine impulsion, une lointaine impulsion inconsciente. Et puis, bah, aujourd'hui, la réalité a largement dépassé ce voyage fantastique, puisque, comme il vous l'a dit, aujourd'hui, les lasers peuvent être non seulement minuscules, peuvent être très mobiles. Aujourd'hui, on a même des capsules laser qui vont permettre de travailler à l'intérieur du corps humain. Alors, on va revenir sur quelque chose de beaucoup plus général. Finalement, soigné par la lumière, on a l'impression un petit peu... paradoxal, moi j'ai en tout cas eu cette impression un petit peu paradoxale en préparant cette rencontre avec le professeur Mordon, que c'est à la fois une évidence et en même temps on a quand même des difficultés à trouver de vrais exemples, même en science-fiction. Évidence parce qu'on sait que nous avons tous besoin de lumière, on sait que la lumière est nécessaire à la vie et que par conséquent lorsqu'on est exposé à la lumière, c'est spontanément quelque chose de positif. La lumière nous nourrit, la lumière nous protège, elle nous réchauffe, la lumière solaire principalement. Et donc on a un peu l'impression que dès que l'on s'expose au soleil, bon moi je viens un peu du côté sud de la France, mais dès que le soleil est présent, on se sent mieux, on se sent plus à l'aise, etc. Alors première question que je pose, cette évidence de la lumière qui soigne, est-ce que la recherche médicale justement s'en est emparée récemment? Où est-ce que c'est présent dans la recherche médicale depuis toujours? Est-ce que les financements des travaux sur la lumière sont récents? Ou est-ce qu'il y a toujours eu cette idée, à partir de la lumière solaire, en quelque sorte, de soins, de dimension curative de la lumière?
Alors, je crois qu'à ce stade, il faut faire une séparation enfin, entre deux utilisations de la lumière. Il y a une première utilisation, c'est la lumière pour voir. Et à nouveau, sans lumière, je ne suis pas certain qu'il y aurait beaucoup de médecine. Hein. Éteignez la lumière, je ne suis pas certain que le médecin, même de famille, soit capable de faire quelque chose. D'ailleurs, il va vous dire, hein, vous n'avez pas une bonne mine, voilà, vous avez des rougeurs. Enfin bon, faut-il que ça soit éclairé? Et un des grands progrès de la médecine, les 10, 20, enfin 30, 40 dernières années, c'est effectivement les progrès de l'imagerie. C'est-à-dire qu'on va mieux voir, et finalement, à un moment, mieux voir, c'est se ramener de... avec nos yeux, donc il faut qu'il y ait effectivement la besoin de la lumière. Donc c'est un premier aspect. Deuxième aspect, donc qui était peut-être plus le sens de votre question, c'est, je dirais, la lumière thérapeutique. Bon. Alors vous parlez des bienfaits, je pense que tout le monde pense ça. Depuis très longtemps, on sait qu'effectivement la lumière a des bienfaits. Il y a on parle de l'héliodermie, par exemple. Hein, donc il y avait des centres, pour les gens qui, par exemple, avaient du rachitisme, etc., il y a plus d'un siècle ou un siècle et demi, on avait des lieux, souvent en montagne d'ailleurs, où on pouvait aussi avoir le bon air, et où les gens, finalement, étaient exposés à la lumière. Et donc, cette utilisation de la lumière est connue depuis très longtemps. Moi, je travaille dans le cadre de la lumière, donc j'irai une unité INSERM, et avec un fort contingent de médecins dans mon unité, donc au niveau du CHRU de Lille. Donc on traite des patients, on utilise une technique, on pourra peut-être en reparler, qui s'appelle la thérapie photodynamique, qui consiste à donner, injecter au patient une substance qu'on va photoactiver. Mais en fait, on retrouve dans des papyrus égyptiens l'utilisation de la lumière. Donc il y avait une herbe au bord du Nil qui s'appelle Amin Majus, dans lequel en fait il y a du psoralène, et les Égyptiens, il y a plus de 4000 ans, faisaient déjà de la photothérapie pour traiter certains types de lésions. Donc à nouveau, c'est pas nouveau, je crois que finalement, peut-être depuis que l'homme a pris conscience de la lumière, il l'utilise.
Oui, après tout, la lumière était un dieu. Au départ, pour les Égyptiens notamment, c'était vraiment la naissance même à la fois de l'univers et de l'humain. Alors beaucoup plus maintenant, pratiquement, et en distinguant bien, je pense, l'aspect recherche de l'aspect thérapeutique, parce que je pense que ça, c'est aussi important de bien rappeler au public qu'il y a d'un côté la recherche peut-être fondamentale, ou en tout cas la recherche appliquée, et puis vraiment la thérapie. Comment peut-on définir véritablement aujourd'hui la photodynamique telle que vous la travaillez, telle que vous la pratiquez?
Donc la thérapie photodynamique. Hein. Premièrement, je ne suis pas certain que je ferais véritablement ce distinguo aussi clair. Entre, si vous voulez, une sorte de recherche fondamentale et puis des applications. Je crois qu'à nouveau, d'ailleurs, c'est un petit peu le principe dans notre unité. Moi, j'ai à la fois des mathématiciens dans l'unité et des chirurgiens. Bon. Et tout ce moment, on travaille ensemble. Et je crois justement, l'idée, c'est qu'il y ait un échange permanent entre, si vous voulez, entre guillemets, les fondamentalistes et les praticiens. Parce que la problématique de l'unité, en tout cas, j'érige, mais je pense que d'ailleurs, c'est la problématique de l'INSERM d'une manière générale, c'est de développer de nouvelles solutions thérapeutiques pour traiter les patients. Alors, si vous voulez qu'on revienne sur la thérapie photodynamique, moi, ça me convient très bien, hein, c'est mon sujet. La thérapie photodynamique est une des techniques qui fait appel à la lumière. Il y en a d'autres. Hein. On peut utiliser le laser seul. Hein, vous parliez de couper. Les chirurgiens utilisent le laser pour sectionner. L'intérêt du laser par rapport à un bistouri lame, une lame froide, c'est que vous allez pouvoir en même temps faire la coagulation. Bon. Vous allez pouvoir couper. Aujourd'hui, on a des nouveaux lasers qui permettent de couper de l'os de manière beaucoup plus efficace. On a des lasers qui permettent, vous savez, de retailler la cornée, donc faire des corrections. Voilà. Alors ça, c'est les applications du laser seul. Bon. Ensuite, la thérapie photodynamique, c'est une technique qui est beaucoup plus destinée à traiter le cancer ou des formes précancéreuses et qui fait appel à une substance. Alors, je parlais de Amin Majus et pour psoralène. Dans la thérapie photodynamique, on appelle ça un photosensibilisateur. Et ces photosensibilisateurs ont un statut de médicament. Et donc, ça signifie que, voilà, donc on a des molécules très spécifiques qui, en fait, ont la propriété de se fixer plus ou moins sélectivement au niveau des cellules tumorales, qui restent pas uniquement d'ailleurs sur les cellules tumorales, bon. Mais elles restent totalement inactives tant qu'elles ne sont pas éclairées. Et donc l'idée là, c'est que par exemple, on a des traitements, alors on a développé récemment d'ailleurs, les phases 3, c'est la dernière phase d'évaluation clinique d'un médicament vient d'être terminée. C'est pour traiter le cancer de la prostate, hein. Le cancer numéro 1 chez l'homme quand même maintenant. Donc j'étais d'ailleurs très j'ai été un des forts une des personnes qui a beaucoup poussé dans ce développement, sachant que comme tout homme j'ai quand même un risque non négligeable de développer ce genre de cancer. Et là en substance, si vous voulez, donc il faut une lumière très spécifique qu'on va pouvoir appliquer de différentes façons. Alors sur la prostate, on va rentrer des fibres optiques, on va les guider. Donc il y a tout un travail, d'abord d'ailleurs, qui passe par l'imagerie, où on va rentrer les fibres optiques dans la prostate. On peut, là on voit une image, là où bon, effectivement à Lille, on a développé des tissus lumineux. On peut, par exemple, sur d'autres pathologies qui peuvent être des lésions précancéreuses au niveau de la peau, donc ça s'appelle les kératoses actiniques. Il faut savoir qu'il y a 3,5 millions de Français qui ont des kératoses actiniques. Et c'est une pathologie qui signale des pas traités, peut évoluer sur des cancers qui peuvent être mortels. En sachant qu'en fait, les habitudes aujourd'hui qui sont de s'exposer au soleil sont très, très néfastes.
Oui, parce que trop de lumière peut
voilà.
être aussi...
Alors, un produit sélectif, une lumière, et lorsqu'on met de la lumière sur ce produit va réagir avec l'oxygène qui est présent dans le milieu. S'il y a cellules, il y a forcément un peu d'oxygène, il y a de l'oxygène. Et pour créer ce qu'on appelle des espèces radicalaires de l'oxygène qui vont être toxiques pour les cellules. Donc voilà un petit peu le principe.
Donc l'idée, c'est de débusquer les cellules cancéreuses par la lumière pour ensuite, après les avoir traquées, en quelque sorte, les...
Alors, en substance, si vous voulez, le dépistage ou le diagnostic peut se faire avant. Il peut se faire par des moyens tout à fait conventionnels. Bon. Et faire appel à des techniques d'imagerie qui sont pas qui peuvent être l'IRM, qui peuvent être le scanner X, etc. Vous évoquiez la possibilité de voir aussi, à la limite, ces cellules tumorales avec la lumière. C'est aussi possible, parce que les photosensibilisateurs, si on les éclaire avec une autre lumière qui n'est pas la lumière thérapeutique, sont aussi fluorescents. C'est-à-dire qu'on peut aussi, aujourd'hui, utiliser d'ailleurs ces deux propriétés. C'est-à-dire que on sait que la lésion, quand même, elle est là, parce qu'on ne va pas commencer un acte thérapeutique si on n'a pas déjà une idée. Le chirurgien ne va pas commencer à ouvrir le patient s'il n'a pas déjà une idée, quand même, un petit peu de la lésion. Mais il va pouvoir conforter la présence de la lésion après qu'on ait pu injecter ce photosensibilisateur. Alors, l'injection peut avoir lieu 3 jours avant, elle peut avoir lieu 24 heures avant, elle peut avoir lieu une demi-heure avant. Bon, voilà, ça va dépendre un petit peu du produit. On n'a pas un seul photosensibilisateur. Mais il peut conforter, enfin, et vérifier que la lésion est bien là, ou qu'elle est toujours là, justement, s'il l'a traité, s'il voit de la fluorescence.
Donc, en fait, finalement, on est en train de parler d'une thérapie, enfin, une photodynamique, qui est en train vraiment de se développer et qui, en même temps, c'est au niveau des résultats que vous obtenez. Est-ce que ces résultats, à la fois, j'imagine que donc, la chirurgie est moins invasive qu'une chirurgie traditionnelle, et en même temps, est-ce que les résultats, au sens curatif, hein, véritablement, faites-nous un peu espérer, faites-nous un peu rêver, est-ce que ces résultats sont significatifs? Est-ce que cette thérapie par la lumière donne des résultats qui seraient de nature à nous faire espérer un triomphe de la lumière, véritablement, c'est-à-dire quelque chose qui serait une médecine de la lumière, où peut-être on combattrait le cancer dans des maisons de la lumière qui seraient vraiment les hôpitaux de demain, peut-être.
Excellente question. Alors, je crois que la lumière a un fort potentiel. Je suis très optimiste par rapport à cette technologie. Je vais donner des chiffres. Mais à nouveau, je crois qu'il faut rester, il faut raison garder. Donc je ne pense pas que la thérapie photodynamique va remplacer, si vous voulez, toutes les techniques. Elle est bien adaptée pour certains types de cancers. Je pense qu'il existe déjà d'autres solutions thérapeutiques qui sont très efficaces. Et la thérapie photodynamique n'est pas forcément nécessaire. Alors, il faut bien comprendre que c'est une technique nouvelle, très nouvelle. Elle n'a pas du tout le recul. Si on prend, par exemple, la radiothérapie, si vous voulez, la radiothérapie a plus de 100 ans. Bon. La thérapie photodynamique a véritablement... Alors même si, effectivement, je parlais des Égyptiens, alors on cite généralement un chercheur allemand qui s'appelle Raab au début du XXe siècle, qui a commencé à voir des choses. Mais la thérapie photodynamique a véritablement commencé à être utilisée en clinique en 1978. Donc, vous voyez, c'est quand même relativement récent. Par une équipe américaine, Tom Gujarati, qui est un ami d'ailleurs, qui est en retraite, mais qui a 85 ans, qui est toujours vivant. Donc, vous voyez, on n'est pas en train de parler d'une technique. Et comme toute technique clinique, si vous voulez, une technique, elle nécessite du temps, parce qu'il y a d'abord un premier produit, on apprend, donc voilà. Alors, elle s'est imposée, par exemple, aujourd'hui en dermatologie, pour traiter certaines formes précancéreuses, elle est en train de s'imposer comme un petit peu la technique de référence. Traiter les kératoses actiniques, on savait traiter les kératoses actiniques. On peut les traiter avec un scalpel, on peut les traiter avec de la cryothérapie. Mais si vous voulez, quand on a une kératose actinique, alors on cite souvent, c'est l'homme qui est chauve, si vous voulez, bon, qui commence à avoir 50 ans, qui a passé, qui souvent passe sa vie à l'extérieur, ou je sais pas, qui ferait du bateau ou des choses comme ça. Bon, il a quand même un fort risque de développer une kératose actinique, qui sont des petites lésions. Et si vous en avez une, vous en aurez toute votre vie. Et on commence par un, et après, il y en a dizaines et des centaines. On parle même, les dermatologues parlent de champ de cancérisation. Il ne faut pas être effrayé par le mot, mais ça signifie qu'il y en a multiples. Donc, en fait, ça consiste à aller tous les 3 mois voir son dermato qui va la brûler à l'azote ou qui va faire une petite chirurgie. Ça signifie qu'au bout de 5 ans, votre crâne ressemble à peu près à la Lune, si vous voulez. Il y a des cratères à peu près partout. Et si vous voulez, dès qu'on ouvre la peau, il y a toujours un risque d'infection. La thérapie photodynamique, vous mettez donc une crème qui est le précurseur du photosensibilisateur. Vous attendez le temps que ce produit devienne efficace. Vous éclairez pendant quelques minutes ou 30 minutes et les lésions disparaissent. Donc voilà. Donc ça fonctionne. On a aujourd'hui le plus grand laboratoire d'dermatologie au monde, qui est originellement franco-suisse, maintenant qui n'est plus que suisse, depuis que L'Oréal a revendu à Nestlé, commercialise ça. Il y a d'autres laboratoires qui proposent ce produit, enfin, ou un produit équivalent aux États-Unis, enfin, dans différents pays, donc ça se développe beaucoup. Je vais prendre un autre exemple. Aujourd'hui, on a un grand soutien de la région Nord-Pas-de-Calais pour traiter le cancer de l'amiante. On en parle beaucoup. Donc le cancer de l'amiante, c'est le mésothéliome. Bien. Donc on va être la première... On a toutes les autorisations. On va être la première équipe en Europe à faire ce genre de traitement. Donc je pense, si tout se passe bien, janvier-février de l'année prochaine. Alors on n'est pas les initiateurs de la technique. On travaille dessus. On est en train d'améliorer certaines choses avec nos collègues américains qui sont les initiateurs. Donc l'équipe de Philadelphie, en particulier Joe Friedberg, enfin, qui est un chirurgien remarquable. Quand, malheureusement, on vous détecte un mésothélium, votre espérance de survie est aujourd'hui au mieux d'une année. Joe, avec son équipe, a des reculs. La survie sur la population qu'il a pu traiter, aujourd'hui, c'est plus de 50 mois. Et il a des patients qui survivent depuis plus de 7 ans. Donc là, on pense véritablement... Il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui thérapeutique. Tout a été essayé, la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie, enfin toutes les techniques de chirurgie. Donc là, on a, sur cette application, on a un autre projet sur glioblastome, qui est une forme aussi assez agressive de cancer du cerveau. On pense que la thérapie photodynamique est une solution qui a un fort potentiel. Mais à nouveau, je ne dis pas, et ne me faites surtout pas dire, que la thérapie photodynamique va tout remplacer et qu'effectivement, c'est la solution ultime. Même moi qui fais ça depuis 35 ans et qui est de mon quotidien, je pense pas que ça soit le cas un jour.
Oui, alors si on était dans un roman de science-fiction, Serge Mordant, qui aurait été le personnage scientifique de l'équipage spatial, aurait dit « la photodynamique va tout révolutionner ». Dans quelques mois, à peine, nous serons tous protégés du cancer. Ce serait beau. Effectivement, la science-fiction, vous voyez, elle reflète aussi nos rêves. Alors, c'est tout à votre honneur.
J'aurai un doigt lumineux.
Voilà, un doigt lumineux comme E.T. Hein. Je vous rappelle que E.T. soigne les blessures avec son doigt lumineux. J'ai d'autres exemples que je vous réserve pour la fin.
Cela dit, j'ai un doigt lumineux.
Oui.
Si ça vous intéresse.
Ah ben, pourquoi pas. Oui, je veux bien voir un doigt lumineux.
Vous voulez voir un doigt lumineux? Vous voulez que je sorte?
Vous êtes venu pour ça, non? Allez.
Alors, je vais vous sortir mon doigt lumineux.
Bon, volontiers. Puis pendant que... On va sortir un autre doigt lumineux aussi, vous allez voir. Je vais vous montrer... c'est trop... Il est allé trop vite. Allez, voilà. Voilà, donc ça, c'est les lasers que vous utilisez.
Oui, voilà. Alors ça, c'est un... Simplement, c'est pour démonstration. Si vous voulez, pour montrer un petit peu ces textiles qui sont tissés. Donc, c'est tissé avec des fibres optiques. Et là, ce que je vous montre, si vous voulez, ça, c'est suffisant pour traiter un patient. Hein. Donc, vous voyez, on a suffisamment de lumière.
Donc, vous entourez le patient
avec
votre doigt.
Oui, le patient, on va lui mettre... On ne lui traite pas les doigts, mais on lui traite la tête. Donc, on fait plutôt... Enfin, ça dépend des lésions. D'accord. Mais souvent, là, on travaille sur... on développe des casques, on a des choses.
Il y
a des...
Est-ce que je peux essayer?
Ah oui, vous pouvez essayer, bien sûr.
Espérons que ce n'est pas encore thérapeutique.
Vous pouvez. Si, ça va soigner. Ça a d'autres vertus, mais je vous les donnerai plus tard. Et là, on est passé au bleu. Là, vous ne le voyez pas, mais maintenant, c'est bleu. Voilà, c'est bleu.
Alors, une question. Je l'enlève.
Alors, ce n'est pas du tout ce qu'on utilise chez les patients. Je vous dis à nouveau, c'est simplement quelque chose pour faire une démonstration. Hein.
Le changement de couleur compte dans le traitement. Je pose vraiment la question très, très sérieusement. Est-ce que la couleur de la lumière peut avoir peut-être un aspect psychologique dans le traitement du patient, mais est-ce que thérapeutiquement, la couleur compte? Ou c'est juste...
Lorsque les photosensibilisateurs ont ce qu'on appelle un spectre d'absorption. C'est-à-dire qu'effectivement, ils vont réagir à des longueurs d'onde. Alors, on va simplifier, à des couleurs. particulière. Dans le domaine médical, on va rechercher pour des raisons. Je pense que vous avez tous mis votre main derrière une lampe de poche et vous avez vu qu'il y avait le rouge qui passait.
Oui. Bon.
Donc en fait, si vous voulez, il y a certaines longueurs d'onde, certaines couleurs qui pénètrent beaucoup plus que d'autres. Entre autres, le rouge et l'infrarouge. Donc les photosensibilisateurs que nous utilisons et que développent des collègues vont avoir plus particulièrement un spectre d'absorption dans le rouge. Voilà. Donc c'est pour ça que là, vous avez vu du rouge. Maintenant, ce dispositif textile peut permettre de... Effectivement, il est, là, c'est en fait, dans cette petite boîte qui est alimentée par batterie, il y a 4 lasers. Bon. On peut aussi faire du violet, du bleu, on peut faire du vert, on peut faire différentes longueurs d'onde, parce que, outre des applications qui étaient l'implication la première de la lumière pour traiter en dermatologie, mais on a le mésothéliome, on va faire aussi des tissus qu'on va rentrer dans la cavité pleurale. Donc, voilà. Bon. Mais on peut avoir d'autres applications. Par exemple, aujourd'hui, on travaille sur un autre projet qui est utiliser ces tissus qui sont très souples pour traiter la jaunisse du nouveau-né. Donc la jaunisse du nouveau-né se traite avec des lampes bleues et donc avec la même technologie. Alors c'est pour ça que là, vous aviez une lumière un peu bleue pour illustrer
ça. Est-ce qu'on pourrait imaginer des textiles, des vêtements lumineux qui seraient conservés par les patients? C'est-à-dire que le traitement, ce serait par exemple que quelques personnes dans la salle qui soient traitées se retrouvent avec ces vêtements lumineux qu'elle garde pendant plusieurs heures,
Tout à fait. D'ailleurs, le projet, que j'ai initié il y a maintenant 5-6 ans sur ces textiles lumineux qui est financé à la fois par l'État français, qui s'appelle l'Agence nationale de recherche, mais aussi par l'Europe. Le projet européen, je serai d'ailleurs la semaine prochaine à Bruxelles, a pour but de développer en fait un casque. Si vous voulez, ça va ressembler un peu à un casque de cycliste, mais qui va intégrer, si vous voulez, à la fois les lasers qui sont miniaturisés et les systèmes textiles. Et l'idée, d'ailleurs, c'est que le patient se traite chez lui. Alors, ça, c'est à la fois plus pratique pour lui. On voit aussi, ça a une implication sur les coûts de la santé, parce que, à nouveau, ce que je disais aujourd'hui, si vous voulez, l'idée des chercheurs qui sont déconnectés des réalités, vous voyez, le chercheur dans son laboratoire, vous voyez, qui voilà, bon. Bon, ça existe peut-être encore, j'en ai déjà croisé. Mais on est quand même en prise directe avec la réalité. Donc, je disais la réalité clinique, forcément, puisqu'on est de façon à l'hôpital. Voilà, moi, je suis au bloc au moins une fois par semaine. Enfin, voilà, on traite les patients avec les cliniciens. Les cliniciens font de la recherche chez nous, etc. Mais aussi, on est dans un environnement économique. Il y a aussi des notions au niveau du développement industriel, l'industrie française qui développe ce genre de choses.
Alors, j'allais venir sur cette question économique et même politique. Je regarde l'heure parce que j'ai encore pas mal de petites surprises aussi pour vous et pour le public. Justement, quand on développe la thérapie photodynamique, les lasers que vous nous avez montrés, donc je me suis permis d'utiliser, d'essayer, mais tout ça est vraiment fascinant. Moi, ça vraiment, je pense qu'on commence à rêver. Je veux dire, porter des vêtements lumineux dans certains gammes d'ondes, et puis être soigné chez soi sans être hospitalisé. Vous savez tous à quel point une hospitalisation pour un individu normal est traumatisante, et surtout quand il s'agit du cancer, surtout quand la vie normale s'interrompt, quand la vie sociale doit être mise entre parenthèses, parce que par exemple une chimiothérapie dévaste complètement tout en essayant de sauver. Des vêtements lumineux changeraient complètement la vie des patients. Donc moi, je trouve que ça, c'est porteur d'un immense espoir. Et je trouve que la science-fiction devrait s'en saisir. J'ai un petit exemple à vous montrer. Mais avant, l'aspect économique et l'aspect politique, moi, c'est ça qui m'intéresse. La recherche, on le sait bien, c'est d'abord du financement sans lequel les outils de la recherche ne sont pas à la disposition des chercheurs. Moi, en tant qu'auteur de science-fiction, je crois profondément à la recherche. Et si j'avais la capacité, je ferais mettre tous les crédits possibles dans la recherche, parce que je crois que la recherche nous sauvera quoi qu'il arrive. Je crois que quand l'humanité crée des problèmes ou se trouve confrontée à des problèmes, c'est l'intelligence de l'humanité collective par la recherche qui permet de faire avancer les choses. Alors lorsqu'on cherche des financements comme ça, et lorsqu'on développe de nouvelles thérapies, la thérapie photodynamique, même si ça remonte, ça fait référence à des mythes anciens, on a parlé des Égyptiens deux fois, comment on fait pour convaincre, pour trouver les financements et puis surtout pour les garder? Est-ce que c'est difficile aujourd'hui d'arriver avec des thérapies photodynamiques en exigeant des financements pour aller plus loin, ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt, vous avez plutôt Moi, j'aimerais bien savoir ça dans cette réalité-là, plutôt un boulevard. On vous dit, mais bien sûr, allons-y, continuons, développons et passons à autre chose que la chimiothérapie.
Vous êtes vraiment certain qu'on doit parler de ça ?
Oui, absolument, ouais. Absolument.
Tout le public.
Si vous le souhaitez, sinon je. En quelques minutes, mais. On a besoin de savoir quelles sont les. Parce qu'on dit toujours que la recherche n'avance pas assez vite, mais peut-être aussi parce que les financements ne sont pas à la hauteur. Donc moi, c'est ça que je voudrais savoir. Comment.
C'est un vaste débat, si vous voulez. Je pense que ça mériterait d'être traité, particulièrement. Dans ce cas-là, moi, je suis, je veux dire, peut-être un contre-exemple des gens qui ont bénéficié, qui sont aidés, qui sont très supportés. Moi, je tiens à remercier à nouveau très publiquement l'INSERM. Très sincèrement, tous les matins, quand je me réveille, je suis content de travailler à l'INSERM, mais peut-être pas dans une autre institution. Je suis très aidé par l'INSERM depuis des années. À nouveau, j'ai un environnement tout à fait favorable. Alors, bien sûr, on pourrait avoir plus de financement. Quand je compare, si vous voulez, moi, j'ai les chiffres des Américains. L'année dernière, les États-Unis, le NIH, qui est un a investi 80 millions de dollars sur la thérapie photodynamique. Je pense qu'en France, l'année dernière, ça m'étonnerait que la France ait investi plus de 100 000 euros. Donc, pour vous donner à peu près une idée. Mais bon. Mais très sincèrement, nos amis américains viennent nous voir parce que, quelque part aussi, on a ce fameux système D, si vous voulez. On est obligé. On a certainement aussi... Bon, j'ai eu la chance de travailler aux États-Unis. J'ai aussi un poste en Finlande, hein, pour information. Donc je suis aussi salarié du gouvernement finlandais, en plein accord avec l'INSERM et l'État français. Mais donc je peux comparer quand même différentes structures... Je pense qu'effectivement, on a un bon rapport qualité-prix. Bon, maintenant, ce n'est pas forcément suffisant. À un moment, effectivement, il y a besoin d'équipement, il y a besoin de subventions. Mais je vous dis, ça nous amènerait très loin dans ce sujet, quoi.
Mais c'est simplement l'occasion de rappeler que dans ce contexte aujourd'hui, ça compte aussi beaucoup. Et réfléchissez bien quand vous avez ce rapport à la recherche. C'est vrai que j'ai eu tort tout à l'heure un petit peu de couper un peu comme ça... un petit peu rapidement la recherche et puis la thérapie. Mais c'est vrai que voilà, il faut que la recherche soit financée. Alors juste une petite, pour essayer de vous surprendre à mon tour, quand on cherche la lumière dans la science-fiction, enfin la lumière qui guérit, hein, parce que la lumière, il y en a partout, il y a des lumières clignotantes dans tous les sens, prenez tout à l'heure, on parlait de Star Trek, il y en a partout, il est dur de trouver des références, à part le doigt d'E.T., effectivement, mais qui est moins curatif que le doigt lumineux de Serge Mordant, ici présent. On a du mal à trouver des références, et grâce à l'esprit collectif de la science-fiction, parce que nous sommes une communauté, je me suis tourné vers les gens qui connaissent très bien leur science-fiction, en particulier une amie qui s'appelle Anouk Arnal, et qui m'a trouvé la référence parfaite pour cette petite table ronde, pour cette petite rencontre avec vous, et j'espère vous surprendre un petit peu, Serge Mordant, parce que c'est vrai qu'on dit toujours que la science-fiction exagère, extrapole et fait des élucubrations. Vous avez ici un roman que je vous offrirai, je me ferai le plaisir de vous l'offrir, de Jasper Ford, donc un auteur très très connu déjà dans le milieu de la science-fiction, qui s'appelle « La tyrannie de l'arc-en-ciel ». Et dans cette tyrannie de l'arc-en-ciel, il imagine une utopie, une autre société, dans laquelle les citoyens sont classés par couleur. Donc ça nous rappelle déjà quelque chose qui est assez classique, comme le meilleur des mondes, notamment, d'Aldous Huxley, mais qui nous rappelle surtout que ces citoyens sont classés par couleur et par capacité à percevoir le champ chromatique. Or, il y a dans cette société, et c'est le seul exemple pour l'instant que j'ai trouvé, des médecins, chercheurs, qu'on appelle les swatchers, et ces médecins chercheurs soignent leurs patients par la lumière colorée. Donc vous êtes, Serge Mordant, un personnage de roman de science-fiction, et ce roman de science-fiction-là, de Jasper Ford, montre comment la lumière peut effectivement avoir un rôle social et un rôle thérapeutique. Voilà, c'est la seule, je dois l'avouer, j'ai travaillé pas mal en amont de cette table ronde, c'est la seule référence vraiment crédible que j'ai trouvé de lumière qui soigne, et je voulais vous l'offrir, et je vous enverrai, je vous adresserai le livre. Voilà. Donc il y a cet aller-retour. Vous voyez que parfois la science-fiction peut aussi se nourrir des toutes dernières, découvertes.
Oui, si vous voulez, aujourd'hui, je pense que certains ont bien compris effectivement qu'un côté, le côté magique de la lumière. Bon. Et à nouveau, je m'intéresse à ça. J'évolue dans ce milieu, je suis expert auprès de différents organismes, et on voit de plus en plus, alors surtout avec Internet, si vous voulez, beaucoup de revendication, effectivement, au niveau de la lumière, avec des lumières qui seraient d'ailleurs généralement que bénéfiques, ce qui est toujours assez intéressant. Et entre autres, il y a une des notions qui est la chromathérapie. C'est-à-dire que si vous tapez chromathérapie sur Internet, vous allez trouver des gens bien évidemment... Enfin, les critères, vous savez, c'est toujours très connu. On ne sait pas vraiment par qui, mais en tout cas très connu. Et qui vous explique que bah, le rouge a telle propriété, le vert a telle propriété. Alors, pour l'instant, il faut quand même être très sérieux, si vous voulez. Aucune démonstration n'a pu être faite. Je dis très souvent... L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Donc il ne faut pas exclure, effectivement, que la lumière puisse avoir un rôle. Il y a des travaux assez intéressants qui montrent qu'effectivement, parce que la lumière solaire entre le matin et le soir évolue, et qu'effectivement, alors il y a entre autres des... On sait qu'on a des récepteurs, ça c'est des travaux d'équipe de Lyon, je pense, qui travaillent beaucoup sur, en fait... On a des récepteurs qui permettent de synchroniser la mélatonine. Donc on découvre effectivement qu'on a d'autres récepteurs autres que les récepteurs au niveau de la rétine qui permettent de réguler des fonctions de l'organisme. Voilà. Donc je pense qu'on est en train d'apprendre. Mais à nouveau, par rapport à ce que vous évoquiez qui permettait de rebondir, il faut faire attention aujourd'hui de ne pas un peu croire tout ce qui est écrit sur la lumière. Aujourd'hui, des dispositifs à LED coûtent strictement rien à produire, mais certains arrivent à les vendre très cher en vous expliquant si vous exposez avec ça, ça vous allez rajeunir, etc. Moi, je dis, vous savez, n'achetez pas ça. Vous vous mettez à côté d'un feu tricolore, vous avez exactement la même longueur d'onde. Donc, vous risquez de rajeunir simplement en attendant, voilà, ou si vous allez au supermarché. Donc, voilà, bon.
Oui, la remarque est très bonne. Attention à la crédulité aussi et à ceux qui vont tenter de vous vendre évidemment des dispositifs lumineux dont vous n'avez absolument pas besoin. Avant de passer aux questions, il nous reste encore un quart d'heure, on revient au tout début de notre présentation sur l'exposition à laquelle vous avez participé, donc Que la lumière soigne. Donc Serge Mordon et son équipe ont participé à l'un des panneaux de l'exposition, le panneau numéro 4. Alors c'est une exposition qui s'adresse aux jeunes en fait, hein, puisque c'est vraiment la cible, c'est vraiment 13-18 ans. Donc j'espère que ceux qui sont parmi vous dans cette tranche d'âge ont déjà vu l'exposition. Est-ce que vous pouvez juste nous raconter, est-ce que ça a été difficile pour l'équipe de chercheurs de livrer un panneau dans cette exposition, par nécessité très simplifiée, comment ça a été travaillé? Il y avait un scénariste qu'est-ce qu'on vous a demandé? Voilà, j'aimerais bien savoir.
Quel était votre mon vécu de ça? Mais pour moi, c'est une excellente expérience. Je pense qu'on a un service de communication à l'INSERM qui a été extrêmement compétent, qui finalement l'idée. Alors, à nouveau, c'est l'année 2015 est l'année internationale de la lumière. Oui. Bon, donc je pense que cette date était connue. J'avais eu l'occasion d'aller dans notre maison mère au 101 rue Tolbiac, discuter avec le responsable des services de communication en 2014 en disant en 2015 ça serait intéressant, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de moi pour que cette date soit bien marquée dans l'agenda de l'INSERM. Et l'agenda et l'INSERM et son service de communication a véritablement fait un travail remarquable. Et bon, nous, à nouveau, ça a été très simple. On a fourni, je pense... une demi-page d'explication. De toute façon, le projet qui est développé depuis 4-5 ans à l'unité est parfaitement connu. Si vous voulez, là, vous montriez cette photo. C'est une photo qui a été faite par l'INSERM. Donc, si vous voulez, il n'y a pas eu d'effort particulier. Je pense que c'est aussi ce qui est bien au niveau de l'INSERM, c'est qu'au niveau de l'administration et de l'infrastructure, les gens savent ce qui se passe dans les laboratoires. Donc, ça ne présente pas de difficultés.
D'accord. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est important, justement, ce service de communication, peut-être aussi, parce que en touchant les plus jeunes, on va peut-être, sans aller jusqu'à forcément susciter des vocations, mais communiquer aussi dans les familles le rôle de la lumière. Alors, merci aussi d'avoir fait la distinction entre chromathérapie ou chromothérapie et puis thérapie photodynamique, entre guillemets, la science véritablement issue de la recherche, et puis le risque, voilà,
de
l'amalgame, de crédulité.
Il y a beaucoup de termes, hein. Il y a photomodulation, photobiomodulation. Voilà, alors, il y a beaucoup de choses qui relèvent plus, si vous voulez, de la croyance ou de la magie. Que de l'effet thérapeutique démontré.
Voilà, mais la photodynamique, on est vraiment...
Bon, la thérapie photodynamique, de toute façon, à nouveau, on utilise une substance qui relève du médicament, on fait de la médecine. C'est utilisable que par... Voilà, c'est un médicament. Je parlais aussi d'application de laser, mais les lasers dits chirurgico-médicaux ont une classification particulière qui est une classification médicale qui peuvent être utilisés que par les médecins. Effectivement, il y a un problème réglementaire au niveau de ces lettres qu'on peut retrouver n'importe où, et ce qui fait que certaines peuvent être utilisées à des fins thérapeutiques, que certains s'en sont emparés un petit peu pour développer, disons, d'autres applications dont on pourrait discuter là aussi longuement.
Ouais, bon, merci de nous rappeler ça, effectivement. Alors, il nous reste encore du temps, mais j'aimerais bien que vous ayez le temps de poser des questions. Je trouve que dans les rencontres, on est toujours trop tard, on arrive toujours trop tard aux questions, et du coup, le public n'a pas l'occasion de s'exprimer. Donc, je vous engage à poser des questions, lever la main, ceux qui veulent interroger, saisir l'occasion d'avoir donc le professeur Mordon devant vous, qui vous a parlé donc de toutes les possibilités de la photodynamique. J'ai essayé de le pousser un peu vers la science-fiction, mais il a su rester le scientifique rationnel, rigoureux qu'il doit être. Donc, est-ce qu'il y a des questions ? Alors, je vois une main qui se lève ici, voilà. Et puis, quelqu'un d'autre là-bas. Allez-y, monsieur.
Bonjour, professeur. Je sais, pour essayer de faire sonner le micro. Voilà, donc, l'homme... Donc, j'ai eu la chance d'aller à une fouille archéologique qui fêtait ses 150 ans à Doutaval, à côté de Perpignan. Et donc, voilà, enfin, par rapport à ça, donc on a trouvé le feu. Et déjà, est-ce que le feu, c'est déjà une première avancée de la lumière pour guérir ?
Je pense que les propriétés du feu, je pense plutôt les propriétés de température thermique plus que propriétés lumière, si vous voulez.
Pourtant, la lumière protège aussi des animaux dangereux.
Oui, alors non, mais si vous voulez, dans le cas, tout à fait, si vous voulez, les animaux peuvent être effrayés par la lumière du feu. Mais si on parle véritablement de l'action thérapeutique du feu, hein, on va utiliser le feu pour cautériser, etc. C'est plus l'aspect thermique du feu, plus que la lumière. J'ai pas d'exemple, si vous voulez, où la lumière du feu aurait été utilisée comme un élément thérapeutique pour photoactiver une substance. C'est trop intense, si vous voulez, c'est trop puissant pour le faire. On recherche des lumières de plus faible intensité, de moins puissante. Comme ça peut être le cas du soleil ou de lumière, les lumières qu'on arrive à fabriquer artificiellement.
Oui, aussi il y a les lumières information. Donc, on n'a pas parlé de tout ce qui est la laser fibre optique. Donc, justement, il y a quand même une avancée. C'est quand même tout récent. Est-ce que vous sentez déjà quelque chose qui se modifie dans la vie courante, dans la façon de pratiquer la médecine? Déjà des nouveaux outils pour vous?
Ces capsules endoscopiques.
Alors, si vous voulez. On peut prendre sur le laser, parce qu'effectivement, le laser est un outil qui est extrêmement intéressant. À nouveau, hein, le laser, on a fêté ses 50 ans en 2010. Hein, le premier laser a marché en mai 1960. Bon. Le prix Nobel, enfin, il y a trois personnes qui ont eu le prix Nobel. Le dernier survivant, qui s'appelle Charles Townes, nous a quittés cette année, le 27 janvier, à l'âge de 99 ans. Ce qui prouve que le laser, quand même, permet de vivre vieux. Alors, le laser, si vous voulez, si on prend le laser, si vous me posez la question sur le laser, j'aime bien. Le laser, vous en avez chez vous déjà, donc il est rentré à votre domicile. Hein. Si vous avez un lecteur de CD, un lecteur de DVD, vous avez un laser. Aujourd'hui, le laser est en train de rentrer par différentes portes. Ici, on n'en a pas, mais souvent, on a des vidéoprojecteurs. La nouvelle technologie de vidéoprojecteur, on n'utilise plus ces lampes qui chauffent, qui font beaucoup de bruit, on utilise des lasers. C'est aujourd'hui le grand développement des lasers. Ça représente des centaines de millions de dollars, ça va représenter des milliards de dollars. Et c'est très intéressant pour nous, parce que ces sources qui sont développées, en fait, pour faire un projecteur, c'est le principe de la lumière, hein, il faut trois couleurs, enfin, pour faire de la lumière blanche, il faut trois couleurs fondamentales, du bleu, du vert et du rouge. Et il se trouve que le bleu, le vert et le rouge, c'est trois longueurs d'onde, entre autres le rouge, c'est une longueur d'onde exactement qui correspond très bien à celle dont on a besoin pour exciter les photosensibilisateurs. Donc voilà. Donc ça, c'est formidable. Et moi, je vois à nouveau l'évolution parce que quand j'ai commencé il y a 35 ans, ces fameux lasers qu'on utilisait, ils étaient développés à l'origine pour les militaires. Et d'ailleurs, les pays qui étaient en pointe il y a 35 ans sur les lasers pour le médical étaient avant tout les pays qui étaient en pointe sur la technologie militaire. Un autre domaine sur lequel le laser est en train de se développer... Si vous voulez, se développer, c'est technologiquement, mais ça signifie économiquement. C'est dans l'industrie automobile. Parce que aujourd'hui, n'achetez plus une voiture avec des phares à LED. Hein. Enfin, il y a 10 ans, vous expliquiez que les phares xénon, c'était la mode. Après, on vous expliquait que c'était les LED. C'est totalement dépassé. Maintenant, il faut un projecteur laser. Et si vous lisez, là, on peut très facilement sur Internet, si vous lisez les déclarations des constructeurs automobiles, ils vous expliquent qu'ils prennent le laser parce que c'est plus fiable que les LED, parce que le rendement est meilleur que les LED. Aujourd'hui, le laser, c'est la source d'énergie qui a le meilleur rendement. Alors, par rendement, je veux dire entre ce que je mets d'un côté en électricité, ce que je récupère en lumière, aujourd'hui, j'ai 80%. Une diode LED, les meilleures diodes LED, c'est 15%. Bon rendement signifie miniaturisation. Donc ça signifie effectivement qu'on peut, on peut commencer à concevoir peut-être des lasers qu'on injectera. On injectera à la fois le laser avec la petite pile. Et vous parliez, on en parlait tout à l'heure. Bon, moi j'ai aussi, enfin je travaille avec des endoscopistes, je suis formé à l'endoscopie. L'endoscopie, hein, c'est le dispositif qui vous permet de voir à l'intérieur des bronches, à l'intérieur de l'estomac. C'est, à l'origine, c'était un tube hein, avec des fibres optiques. Depuis 6-7 ans, on a des capsules endoscopiques qui font 20 mm de diamètre, que vous avalez, ça fait une grosse gélule, hein, voilà, qui intègre une caméra, qui intègre le dispositif de lumière, qui intègre des piles, qui intègre un système d'émetteur, parce qu'on va vous mettre un système, en fait, avec des antennes, et vous allez pouvoir, alors, au lieu d'être allongé pour votre examen endoscopique, vous avalez la petite gélule, on vous met un système que vous portez, qui est grand comme un sac à main ou un tout petit sac à main, vous avez le temps de faire vos courses, etc. Vous revenez 6 ou 7 heures après, vous laissez le dispositif et voilà, on sait tout de ce qui se passe de votre bouche jusqu'à votre rectum, hein, enfin jusqu'à votre anus même. Donc voilà. Et ça, c'est quand même un exemple d'une, effectivement, de cette technologie qui a considérablement progressé. Et je pense que les prochaines années nous révèlent, surtout dans le domaine de la lumière où il y a des enjeux extrêmement importants, de très très forts développements.
On n'est pas loin du voyage fantastique, hein. Vous avez vu, on avale une gélule qui se balade pendant 7 heures. Dans le voyage fantastique, c'était un sous-marin avec des scientifiques. Un peu troublant que des scientifiques passent de ma bouche à mon anus, mais c'est un détail. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on n'est pas mal, on n'est pas loin de ce laser. On n'aura pas les sabres laser de Star Wars, pas dans l'immédiat, je pense, mais on a déjà des projecteurs laser dans nos voitures bientôt. Bon, il y avait d'autres questions encore. Je crois qu'il y avait un monsieur là-bas qui, ou une dame, je vois pas. On a trop de lumière dans les cieux.
Donc, ma question porte sur les lasers, justement. La longueur des lasers. Vous parliez des lasers de 3 mètres, mais pour moi, les lasers n'ont pas de fin quand on projette un laser.
Il faut distinguer deux choses. Il y a le rayon, qui lui part effectivement et sans fin, mais ce que je parlais, c'est le dispositif qui produit. Si vous voulez, le tube, généralement, enfin, là, ici, on voit des...
C'est une image.
Hein. C'est une image, mais ça, je pense qu'on voit aujourd'hui des pointeurs laser. Bon, ces pointeurs laser sont des diodes laser. Avec. Si vous revenez il y a 20 ans en arrière, en fait, on avait un tube hélium néon. D'ailleurs, au bout d'un moment, on avait la main qui brûlait, qui faisait à peu près 25 à 30 cm. Mais il sortait quelques milliwatts. Dans le domaine médical, on a besoin de watts, de dizaines de watts. Et je vous dis à nouveau, les premiers lasers... Pour faire ça, le dispositif, le tube, si vous voulez, qui permettait de générer cette lumière, faisait 3 mètres. Voilà. J'ai vu... Il y a plein de technologies de laser. Il y a ce qu'on appelle... de laser qui s'appelle les lasers à électrons libres. Enfin bon, c'est un peu une technologie particulière. Le premier laser que j'ai vu à Stanford... En fait, si vous voulez, le laser faisait à peu près 100 mètres de long et il fallait un accélérateur linéaire de 2 km, vous voyez, pour produire les choses. Voilà. Bon, c'était pas forcément très facile.
Oui, c'est pas très mobile. Merci. Allez, une dernière question et après on clôt parce que mon devoir aussi, c'est de respecter le temps. Je demande à tout le monde de le faire. Donc, y a-t-il une dernière question ou pas ? J'ai pas vu. Non ? Non ? Bon. Alors, écoutez, professeur Mordon, un grand merci à vous. Merci à l'INSERM aussi d'être partenaire des Utopiales. Et merci au public. Voilà. L'espoir de la lumière. Merci beaucoup.